Marie-André, bonjour. Farley, bonjour. Rosanie, Jean-Gilbert, bonjour. La belle-mère, bonjour. Gilles, Joanne, bonjour. Thérèse, bonjour. Rosie, bonjour. Alors, bienvenue en ce mercredi 16 mars 2022. Petite journée ensoleillée. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, vous serez contents du temps qu'il va faire demain. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour au frère Miguel Galas. Bonjour à la sœur Gladys Peralta. Bonjour Guy. Encore un petit 4 ou 5 minutes avant que nous ne débutions officiellement. Bonjour Lucie. Surprenant, Rosie. Donc, du sable qui vient du Sahara, qui a traversé la France pour aller jusque dans le nord-ouest, nord-est plutôt. Je savais pas que ça montait autant. Je savais que dans la région de Narbonne, ça arrivait souvent, mais je savais pas que ça allait jusque en Alsace. J'en apprends une bonne aujourd'hui. Bonjour Marie-Marthe. Salut Alex. Effectivement, demain, c'est environ 15 degrés, ce que je regardais tout à l'heure. Le jour d'après, encore 10. Aujourd'hui, ça monte autour de 5 ou 6, quelque chose comme ça. Tu dois être content, Alex. Bonjour Pascal. Tu vas être tellement content que tu vas commencer à nettoyer la piscine. Shalom la belle-mère. Farley, bonjour. Frère Frédéric, que Dieu vous bénisse. Bienvenue avec nous ce matin. On s'excuse pour la coupure de connexion hier, en plein cœur de notre enseignement. Donc, c'était hors de notre contrôle, on s'en excuse. Bonjour Francine. Alors aujourd'hui, deux rendez-vous. Ce matin, vous êtes déjà là. Et ce soir, études bibliques à 19h. Et on vous rappelle, pour ceux qui sont à Montréal, qu'il est possible d'assister en présentiel à l'étude biblique. Le frère Bova et la petite famille, bonjour. Merci Francine, soyez bénie vous aussi. Myriam, Donald, bonjour. Daniel, salut. M'excuse, on va reprendre l'enseignement qu'on n'a pas pu compléter hier. Et je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Mais encore une fois, on s'en excuse. Sonia, bonjour. Bonjour à la petite famille. Et si Camille est avec vous, on le salue aussi. Denise, Gérard, bonjour. Rachel, Ocilia, Chantal, Mona, bonjour. Babette, Andreas, bonjour. J'ai parlé, Claude, de ceux, mais bonjour, tout d'abord, j'ai parlé de ceux qui étaient contents que l'hiver termine. Et puisque tu me connais, tu sais que je ne peux pas me réjouir du temps qui sera là, demain. Après ça, vous allez vous plaindre que l'herbe est toute mouillée, qu'il y a de la boue partout, que c'est sale. Tout est bien plus beau sous une couche de neige toute blanche. Bonjour Suze. Alors, ceux qui ne le savent pas encore, demain c'est l'été. Il va faire entre 15 et 17 degrés demain. Si ce n'était que de moi, j'actionnerais la clim. Alors prions pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension et que tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as prévu, planifié pour aujourd'hui nous soit accordé. Nous ne voulons passer à côté d'aucune des bénédictions que tu avais pensées comme nécessaires pour nous aujourd'hui. Je te demande simplement de parler et nous, en tant que serviteurs, en tant que servantes, nous nous disposons à recevoir, à écouter et à mettre en pratique ta parole. Alors Seigneur, ce matin, étends ta main, touche ma sœur, touche mon frère et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Et tout le monde peut dire là où il est. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette autre édition des bénédictions matinales du mercredi 16 mars 2022. On s'excuse encore de l'interruption de service hier en plein cours de notre leçon. Donc on va reprendre ces mêmes points aujourd'hui, ne sachant pas à quel moment vraiment, ça a coupé pour vous. Alors, je lis pour vous toujours dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11. Et je lis pour vous à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. La thématique de cette année qui est « Jésus est vraiment ici », non seulement je suis convaincu qu'elle nous a été donnée par Dieu, que c'est effectivement ce que le Seigneur avait pour nous cette année, mais je comprends qu'elle suscite aussi ou qu'elle peut susciter chez nous bien des questionnements et qu'elle vient nous bousculer parfois dans nos raisonnements et dans les situations qu'on peut traverser. Dimanche, lorsque je faisais mon introduction à la thématique de la prédication, j'expliquais que le jour même où j'ai reçu cette thématique, où le Seigneur m'a indiqué quelle serait la thématique pour l'année 2022, je savais dans les secondes qui suivaient que de surcroît cette thématique venait aussi un questionnement. Si Jésus est vraiment ici, virgule, alors pourquoi point de suspension? Si Jésus est vraiment présent parmi nous, alors pourquoi point de suspension? Assurément, on est tous passés par ces moments difficiles à l'occasion où on se demande, mais qu'est-ce que faisait Jésus? Je me rappelle un livre, sans l'avoir lu, je pense que c'est mon épouse qui l'avait. Le titre, je crois que c'était le docteur Dobson qui l'avait écrit, ce livre. Le titre, c'était « Lorsque Dieu ne fait pas de sens ». En anglais, bien sûr, « When God doesn't make sense ». Donc, lorsque les choses de Dieu ne correspondent pas à ce qu'on croirait logique. Et lorsqu'on passe par des situations tumultueuses, lorsqu'on passe par des tempêtes dans notre vie, c'est effectivement des situations qu'on a de la misère à saisir et à comprendre, et on se demande, mais où était Dieu pendant ce temps-là? Vous vous rappelez cette image qu'on a parfois partagée, vous le voyez parfois sur des ces petits bouts de papier qu'on met dans un livre pour garder une page. Vous l'avez parfois sur des posters, vous l'avez parfois sur des images sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Cette image qu'on appelle « footprints » en anglais, donc des traces dans le sable en français. Et c'est l'histoire d'un homme qui a un rêve et dans lequel il voit deux traces de pas, les siens et les traces des pas de Jésus. Et lorsqu'il se réveille, il se met à prier et il dit « Mais Seigneur, je regarde dans ce rêve, je voyais deux traces de pas et qui correspondaient à tous les moments heureux de ma vie. Mais à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule paire de pas et c'est dans les moments difficiles. Alors Seigneur, où étais-tu dans cette période de temps difficile? » Et le Seigneur qui répondrait, je ne sais pas si ça a été un vrai rêve, si ça a été une vraie conversation avec quelqu'un, mais l'histoire va ainsi, le Seigneur qui répond à cet homme, mais c'est parce que lorsque tu passais par des moments difficiles, tu ne marchais plus. C'était moi qui te portais et les traces que tu voyais dans le sol, c'était en fait juste mes traces à moi. Et la question de cet homme, à savoir, mais Seigneur, où tu étais? Où étais-tu pendant mes moments difficiles? C'est un peu cette même affirmation que va faire Marthe tout d'abord, puis Marie en disant, Seigneur, si tu eusses été là, si tu avais été ici, ben assurément mon frère, notre frère, ne serait pas mort. Et juste pour clarifier, un peu comme on l'a fait lundi, lorsque Jésus se fait appeler Seigneur par Marthe et Marie, c'est qu'il est effectivement leur Seigneur. Lorsque Marthe va dire que Jésus est le Christ qu'on attendait, le Fils de Dieu qui avait été annoncé, elle le croit pertinemment. Et c'est d'autant plus vrai que la Bible, ce qui arrive rarement, va nous dire que Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie, et son frère Lazare. À peu d'occasions dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles notamment, voit-on une mention des émotions de Jésus, de l'affection particulière que Jésus pouvait avoir à l'égard de quelqu'un. Mais ici, lorsqu'il arrive à Béthanie, lorsqu'il se rend près de ce trio, donc Marthe, Marie et Lazare, la Bible nous dit qu'il les aimait. Si ça avait été de faux croyants, si ça avait été de faux amis, si ces personnes avaient été de faux disciples de Christ, peu probable qu'ils seraient mentionnés dans la parole que Jésus les aimait. Peu probable qu'il nous fut alors rapporté que Jésus, à l'annonce de la mort de Lazare, peut-être plus même à voir les émotions qui s'emparaient de Marie, de Marthe, que Jésus n'ait eu à pleurer sur ce décès. Est-ce que Jésus a pleuré sur le décès de Lazare? Peu probable, puisque Jésus savait qu'il allait aller là-bas pour réveiller son ami Lazare. Assurément, Jésus a appliqué la phrase qu'il nous donnera plus tard dans les épîtres de Paul, où on nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et assurément, ici, Jésus pleurait avec Marthe, avec Marie, ses amis qui étaient dans l'effroi avec le décès de leur frère. Donc, première chose, ne nous méprenons pas en disant « ces femmes-là ont manqué de foi, ces femmes-là ont manqué d'adhésion à Christ, ces femmes-là n'étaient pas de dignes représentantes du royaume, Jésus les aimait et Jésus ne les réprimande nullement des larmes qu'elles ont eues à verser ». Ceux qui veulent plus d'informations sur ce sujet ou sur cet aspect, on vous invite à regarder la dernière bénédiction matinale qu'on a partagée, soit lundi matin. Trois choses qui vont être dites par Marthe et Marie lorsqu'elles disent à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Premièrement, elles sont en train de dire à Jésus, « Tu étais absent. » Et je m'excuse si vous entendez ronfler, c'est Néma qui ronfle à mes pieds. Marthe va d'abord commencer en s'approchant de Jésus, en lui disant, « Si tu eusses été ici. » Ça veut donc dire que tu n'étais pas là. Et parfois, on questionne la présence de Dieu. Et c'est là où il nous faut revenir aux bases de notre foi. Dans les moments difficiles, il nous faut avoir un ancrage solide sur les Écritures qui nous permet de relativiser les choses jusqu'à un certain point, qui nous permet de garder notre calme en se cramponnant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et on a étudié ce verset lorsqu'on a proclamé la thématique annuelle de l'Église, dans Matthieu au chapitre 28, le verset 20, Jésus va dire, « Et voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a des vérités comme celle-là qu'il nous faut adopter et qu'il nous faut adopter comme un axiome. J'ai déjà eu l'occasion de vous donner la définition de ce terme qui est mathématique et pourtant, je ne suis en aucun temps, je n'ai jamais été très mathématique, j'étais plutôt un littéraire. En fait, j'étais pas plutôt un littéraire, j'étais foncièrement un littéraire et absolument pas un gars de sciences et de mathématiques. Par contre, le terme axiome m'est resté durant toutes mes années au collège, lycée et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est un axiome? Un axiome est une vérité qu'on ne prouve pas, qu'on prend telle qu'elle est. Pas pour acquise, mais telle qu'elle est. Les deux axiomes principaux de tout le raisonnement mathématique, c'est que 0 égale 0 et que 1 égale 1. En ayant ces deux notions de 0 qui vaut 0 et de 1 qui vaut 1, on a développé toute la notion de mathématiques. Si à un moment donné, on arrive à des chiffres faramineux, c'est qu'à la base, on connaissait la valeur du 0 et on connaissait la valeur du 1. On ne prouve pas que 0 égale à 0. On ne prouve pas que 1 égale à 1. On le prend pour simple et parfaite vérité. Et c'est ce qu'on appelle un axiome. Et un des axiomes concernant Jésus, c'est qu'il est effectivement avec nous, en tout lieu, jusqu'à la fin du monde, tel qu'il nous l'a annoncé. Il y a des vérités comme celle-là qu'on ne met pas en débat, qu'on ne remet pas en question, qu'on se doit d'adopter et qu'on se doit de garder fraîche et limpide dans notre esprit. Pourquoi? Parce que le jour où tout commence à s'écrouler autour de nous, le jour où la tempête semble poindre à l'horizon, le jour où le vent se lève, où la pluie commence, où le ciel s'assombrit, c'est pas à ce moment-là qu'il nous faut savoir où est Jésus. Lorsque la tempête arrive, c'est une espèce de tourbillon. Et là, je ne parle pas d'une brosse à dents qu'on ne sait plus où elle est. Je ne parle pas d'un pneu qui est dégonflé un matin en se levant parce qu'on a roulé sur une vis. Je ne parle pas d'une petite courbature le matin qui nous empêche d'aller faire notre jogging comme on voudrait. Non, je parle d'une tempête qui fond sur nous. Lorsque ce genre de tempête tombe sur nous, il y a une espèce de tourbillon intense qui se dresse tout autour de nous et qui assurément se lève aussi dans nos pensées. Et ce tourbillon ne peut se calmer que si je suis cramponné et si j'ai déjà acquis une des vérités bibliques qui dit que Jésus est vraiment là. Lorsque David va se pointer contre Goliath, alors que ça fait 40 jours que le géant se dresse devant Israël, qu'il les menace, qu'il demande un champion pour venir se battre un à un avec lui, et le résultat de ce combat déciderait de la destinée du perdant, mais aussi du peuple associé à ce perdant. On voit que tous les Israélites, lorsque Goliath se lève deux ou trois fois par jour pour venir menacer le peuple, tous les Israélites vont se cacher. Ils ont peur. Lorsque David est confronté aux menaces et au spectacle qu'offre Goliath, au lieu d'être ballotté dans sa foi, il va être fondé sur qui il est et surtout sur qui est celui qui est avec lui. Et rappelons-nous les phrases importantes que David va dire à Goliath. Goliath voit ce petit gamin s'approcher avec ses habits de berger, avec ses outils de berger, son bâton, sa fronde, sa gibecière, ses cailloux. Et la réaction de Goliath, c'est « Hey, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec tes bâtons et tes cailloux devant moi? » Et David qui lui rétorque « Toi, tu viens avec la lance. Toi, tu viens avec l'épée. » « Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. » Et cette expression « venir au nom de l'Éternel des armées », c'est veut dire « venir accompagné de l'Éternel des armées ». Lorsque David va dire à Saül, « Regarde, ô roi, moi j'ai déjà expérimenté la présence de Dieu et j'ai déjà expérimenté la délivrance de Dieu. Lorsque le lion se présentait, lorsque l'ours se présentait, lorsque le fauve, l'agresseur se présentait, je courais vers la bête sauvage et je la faisais fuir. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec moi et assurément, devant ce géant, il sera aussi avec moi. » Je ne sais pas quels sont les géants dans ta vie quelles sont les circonstances qui te font trembler aujourd'hui. Mais sache une chose, il te faut revenir à la véracité, à la vérité de la parole de Dieu. Cette parole qui t'affirme que Jésus est avec toi à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette semaine, j'avais cette image du moment où les disciples vont traverser la mer. Et la Bible nous dit qu'en plein cœur de la traversée, alors que Jésus les a envoyés, il dit « Moi, je vais vous rejoindre. » On nous dit que la tempête s'est levée et que les disciples avaient peur. Et tout d'un coup, ils ont vu marcher autour d'eux, près d'eux, quelqu'un. Et ils ont eu peur que ce soit un fantôme. Pierre va crier, « Est-ce toi, Seigneur? » Et puisque c'est effectivement Jésus, il dit, « Oui, c'est moi. » Alors il dit, « Mais Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne et je vais venir. » Et Jésus n'avait d'autre choix que de dire à Pierre de venir, puisque il était effectivement qui il disait être. Alors Pierre s'est avancé. Mais la chose intéressante, c'est que Jésus les a envoyés, mais au plein cœur de la tempête où était Jésus, Jésus marchait à leur côté. Jésus marchait auprès de la barque. Dieu ne t'envoie pas dans une tempête. Dieu ne permet pas qu'une tempête tombe sur toi, qu'il ne soit à tes côtés. Notre Dieu est avec toi quand tout va bien. Et parfois même quand tout va bien, on ne dénote pas, on ne célèbre pas la présence de Christ à nos côtés. Mais lorsque tout va mal, on voudrait prétendre que Christ n'est pas là. Si Christ n'est pas là dans la tempête, il n'est pas celui qu'il disait être. Si notre Seigneur n'est pas avec nous dans la tempête, ça veut donc dire qu'il n'est pas avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça ferait de lui un menteur. Alors, une des choses sur lesquelles on doit retourner dès que la tempête se pointe, ou même lorsque il n'y a pas de tempête, que ce soit un bon jour ou une mauvaise journée, on doit revenir sur le fait que Christ est avec nous à tous les jours. La question de Marthe et Marie, c'était une question qui se posait si on ne connaît pas qui est Christ. Mais pour toi et moi qui avons l'ensemble de la parole de Dieu, pour toi et moi qui avons cette phrase que Jésus allait dire plus tard à ses disciples, lorsque ressuscité et lorsque partant vers le ciel, il leur dit, « Mais voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une vérité que tu dois prendre pour toi et sur laquelle tu dois bâtir. Et lorsque la tempête se lève, il te faut proclamer de nouveau, « Jésus, je sais que tu es ici. » Alors, parce que tu es ici, je ne crains pas la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que tu es avec moi. Parce que tu es mon berger, que tu es avec moi, je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que tu es avec moi. Je vais me rassurer parce que tu es avec moi. Je vais dire à mon âme, retourne à ton repos, parce que l'Éternel t'a fait du bien et parce que tu sais que l'Éternel est présent ici. Lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, très souvent, on marche avec les sens, avec le fait de pouvoir sentir ou non la présence de Dieu. On vit avec ce qu'on entend, sa voix ou non. Et c'est une bonne chose d'expérimenter la présence de Dieu. C'est une bonne chose d'expérimenter l'écoute de la voix de Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur veut nous amener à un plus haut niveau de maturité. Et ce niveau de maturité s'atteint lorsque je suis capable de dire en dépit de la tempête, en dépit des circonstances contraires, je ne flancherai pas, je ne remets pas ta présence en doute, je ne remets pas ton action en doute, parce que je sais que ta parole est vraie et je sais que tu m'as fait la promesse que tu es avec moi à tous les jours. Un degré de maturité est acquis, est atteint, lorsque je sais foncièrement, je ne fais pas semblant, je n'essaie pas de me rassurer moi-même, je déclare comme une vérité absolue à laquelle j'adhère pleinement, que peu importe les circonstances, les situations, peu importe ce que je peux voir ou ne pas voir, peu importe ce que je ressens ou non, peu importe ce que j'entends ou non, je sais qu'il est à mes côtés. Et la notion, la connaissance de la présence de Dieu à nos côtés doit nous rassurer. Alors mon frère, ma sœur, oui, Dieu est à côté de toi, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que tu traverses. Ne remettons plus en question la présence de Dieu. C'est un peu comme cet enfant qui ne reçoit pas le cadeau de son papa ou de sa maman et qui se tourne vers eux en leur disant « Mais je pensais que tu m'aimais. Je pensais que vous m'aimiez. Je pensais que vous aviez de l'affection pour moi. Je pensais que je comptais pour vous. » Lorsque je suis en train de dire à Jésus « Ben, tu n'étais pas là ou je pensais que tu devais être là. » C'est un peu cette attitude de l'enfant qui manque de maturité pour savoir que papa et maman l'aiment en dépit des circonstances. Papa et maman l'aiment même lorsqu'il fait une bêtise. Papa et maman l'aiment même lorsqu'ils désobéissent. Ils sont frustrés, ils sont fâchés. Ils appliquent une correction sur l'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment, qu'ils ne l'aiment plus. Et nous, devant le Seigneur, on doit comprendre qu'il est à nos côtés, qu'il fasse quelque chose ou non, qu'il intervienne ou non, qu'il parle ou non, qu'il me fasse sentir sa présence ou non, j'ai juste besoin de savoir, de connaître qu'il est là en tout temps, en tout lieu. Et une fois que c'est acquis, il faut que ce soit acquis pour toujours. Lorsqu'on parle de cette phrase « si tu eusses été là », non seulement Marthe et Marie étaient en train de dire « mais tu n'étais pas là », mais aussi « si tu eusses été là », mais tu aurais été là au bon moment. Tu arrives 2 jours plus tard, 4 jours plus tard. Tu arrives 4 jours après que le frère soit mort. Tu arrives après avoir pris déjà un délai de 2 jours pour venir. Tu es resté 2 jours de plus là où tu étais avant de venir. Tu n'es pas dans le bon temps. Et régulièrement, on regarde le Seigneur en lui disant, « Mais Seigneur, t'es en retard. » Le Seigneur n'est jamais en retard, il est parfait en tout ce qu'il fait et son temps est aussi parfaitement parfait. Son temps ne peut pas correspondre à notre temps. Son échéancier peut ne pas correspondre à notre échéancier, mais son temps est parfait. Vous voyez, avec Dieu, très souvent, on a 3 options. Soit on pense que Dieu a fait les choses trop vite, soit on pense que Dieu a fait les choses dans le bon temps, soit on pense que Dieu a fait les choses en retard. Très souvent, lorsqu'il vient ramener un de ses serviteurs à la maison, lorsqu'il amène avec lui pour l'éternité quelqu'un, donc lorsqu'un enfant de Dieu passe par ce qu'on appelle la mort, ben, ceux qui restent derrière ont toujours ce sentiment que les choses sont arrivées trop tôt. Si la vie d'un serviteur de Dieu compte pour Dieu, si effectivement, tel que le psalmiste va le dire, la mort du juste a une grande richesse, a une grande priorité, a une grande importance, a une grande valeur aux yeux de Dieu, alors il ne lésine pas sur la mort de ses enfants. Il ne blague pas avec ça. Il les retire au moment approprié. Il n'est pas donc en avance sur le temps. Il n'est pas non plus en retard sur le temps. Il ne nous délivre pas après notre mort. Il ne nous libère pas après notre mort. C'est comme, oui, je vous laisse en pâture face à vos ennemis, et une fois qu'ils auront tout dévoré ce qu'ils ont à dévorer chez vous, à ce moment-là, j'interviendrai. Quelqu'un qui nous secourt d'une telle manière n'est pas un bon sauveur. Quelqu'un qui prend soin de nous d'une telle manière n'est pas un bon gardien. Notre Dieu n'est jamais en avance. Notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu est toujours dans le parfait, parfait, parfait moment. Je peux ne pas comprendre le temps de Dieu. Je peux ne pas comprendre le calendrier de Dieu. Je ne peux ne pas comprendre pourquoi Dieu a voulu attendre. Mais Dieu a un propos. qui me sera peut-être révélé de ce côté-ci de l'éternité, ou qui me sera partagé strictement dans l'éternité. Mais peu importe que je le sente ou que je ne le sente pas, que je le vois à mes côtés ou que je ne le vois pas, je sais qu'il est là, il est toujours là. Donc s'il est toujours là, il est là aussi au bon moment. Notre Dieu n'est pas en retard sur ta vie, mon frère. Notre Dieu n'est pas en retard sur ta vie, ma sœur. Notre Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Il y avait ce cantique célèbre qu'on chantait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté, mais qui disait « en son temps, Dieu fait toutes choses parfaites en son temps ». Dans ta vie, c'est une réalité. Très souvent, on exhorte les autres avec un tel verset pour qu'ils aient de la tempérance, pour qu'ils aient de la patience, pour qu'ils aient de l'endurance, pour qu'ils aient de la résilience. On leur dit « Regarde, le Seigneur est à l'œuvre, il va intervenir ». Attends simplement, il va le faire au bon temps. Mais il faut que cette vérité s'incruste profondément en toi et que tu admettes comme une vérité inaliénable, comme une vérité parfaite, complète, constante, éternelle. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Alors Seigneur, non pas mon temps, mais ton temps. Et dernier point, lorsque les deux sœurs vont dire « Si tu eusses été ici, mon frère ou notre frère ne serait pas mort », c'est que foncièrement, on commence à dire « Mais s'il est mort, c'est ta faute. Si c'est arrivé d'une telle manière, c'est ta faute. » Soyons très très clairs, la maladie n'existe pas à cause de Dieu. Soyons très très clairs, la mort n'existe pas à cause de Dieu. Elle existe à cause du péché initial qui a été nôtre. Péché initial que nous avons partagé et hérité d'Adam et Ève. Avant le péché, pas de maladie. Avant le péché, pas de mort. Le Seigneur va interdire à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur dit clairement, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort est une conséquence directe du péché initial. La maladie est une conséquence directe du péché initial. Lorsque quelqu'un tombe malade, ce n'est pas que Dieu l'a fait. C'est parce que mon corps est tel qu'il est, et par conséquent, mon corps se détruit, mon corps se désagrège, et je deviens sensible à tout virus. Je deviens sensible à toute infection, je deviens sensible à toute bactérie. Parce que Dieu intervient ou n'intervient pas, on dirait que c'est sa volonté. La mort, la maladie, le malheur dans cette société est dû au péché. Et est dû au fait que les hommes encore aujourd'hui vivent loin de la grâce et loin des notions de Dieu. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on est en train d'être frappé par cette vague de violence qu'on voit en Ukraine. Ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces vieillards qui vivent dans la peur, dans la terreur du prochain bombardement. Et face à ces événements, j'écrivais il y a quelques semaines, si on avait entendu, si on avait appris ce qu'ils nous disaient. Vous vous aimerez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si nous appliquions aujourd'hui cette vérité divine de s'aimer les uns les autres, nous n'aurions pas ces bruits de guerre autour de nous. Nous n'aurions pas ces violences autour de nous. Nous n'aurions pas ces meurtres autour de nous. Nous n'aurions pas cette petite fille qui s'est fait battre dans la rue hier. On n'aurait pas ces choses si nous nous aimions les uns les autres et si nous vivions selon les préceptes et la pensée du prince de paix. Non, ma mort ne sera pas le fruit de l'action de Dieu. La mort sera le fruit du péché initial. Dieu, effectivement, va dicter le nombre de jours que j'ai. Et d'ici ce jour-là, la mort n'a pas d'effet sur moi. Mais un jour, lorsque la clepsydre établie par Dieu, lorsque le sablier établi par Dieu pour ma vie se sera vidé, eh bien ce jour-là, la mort viendra me chercher. Parce que je suis un pécheur repenti, repentant, gracié, mais je suis encore un pécheur qui vit avec cette nature humaine altérée par le péché et sensible à la maladie et sensible à la mort. Mais chose certaine, parce que Christ est qui il dit qu'il est, il s'en est allé pour me préparer une place pour être avec lui pour l'éternité. Et s'il n'en avait pas été ainsi, il nous l'aurait dit. Christ est parti te préparer une place pour que tu vives pour l'éternité en sa présence. Et lorsque nous serons avec lui pour l'éternité, enfin, nous retrouverons ce qui était nôtre avant le péché originel. Il n'y aura plus de larmes là-haut. Il n'y aura plus de maladie là-haut. Il n'y aura plus de mort en la présence de Dieu. Mais nous vivrons sous sa bénédiction, sous sa grâce et sous son autorité pour le restant de l'éternité. Mon frère, ma sœur, Dieu est vraiment à tes côtés. Jésus est vraiment, vraiment, vraiment à tes côtés. Jésus est vraiment, vraiment à tes côtés en tout temps. Et Jésus fait vraiment, 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 en tout temps, en tout lieu, ce qui est parfait. Alors je lui fais confiance, parce qu'il est à mes côtés, je sais que même si j'avais à mourir, même si j'avais à affronter la mort, je sais qu'à l'instant suivant, je me retrouverai en sa présence, dans sa félicité éternelle, dans le repos éternel avec mon Seigneur, mon Maître. Alors oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous voilà arrivés à la fin de cette leçon pour aujourd'hui, où nous voulons remettre à leur juste portée ce que nous savons de toi. Seigneur, nous proclamons que tu es effectivement avec nous en tout lieu. Tel que le psalmiste va le dire, s'il monte au ciel, tu es là, s'il descend dans les antres de la terre, tu es là, s'il va à l'Occident, à l'Orient, t'y voilà encore. Seigneur, tu es partout et donc, oui, en tout temps, à nos côtés. Seigneur, ton action n'est jamais en retard, jamais en avance. Tout ce que tu fais est parfait en ton temps. Tout ce que tu fais dans ma vie est parfait en ton temps. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas en retard. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas en avance. Merci Seigneur de ce que tu agis parfaitement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Seigneur, tu n'es pas le responsable de mes malheurs. Tu n'es pas le responsable de mes tempêtes. Tu n'es pas le responsable de mes maladies. Tu n'es pas le responsable de ma mort. Je deviens malade parce que je suis pécheur. Je suis sujet à la mort parce que j'ai péché. Mais Seigneur, tu nous prépares bien au-delà de la maladie et de ce passage qu'on appelle la mort, tu nous prépares une vie éternelle en ta présence. Oui, la couronne de vie nous est réservée à nous qui aurons aimé ton avènement, à nous qui aurons combattu le bon combat, à nous qui aurons couru la course comme elle se doit d'être courue et qui n'auront pas lâché. Seigneur, tu es vraiment, vraiment, vraiment à nos côtés. Je prie pour ma sœur, pour mon frère qui passerait par des moments difficiles aujourd'hui. J'appelle, Seigneur, son raisonnement, j'appelle sa pensée à revenir aux vérités de ta parole. Tu es avec nous, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je veux proclamer à mon âme pour qu'elle revienne à son repos. C'est ce que je veux proclamer à mon esprit pour qu'il revienne à sa paix, sachant que tu es vraiment, vraiment, vraiment ici. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux, majestueux nom de notre Seigneur, toi, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc ce soir pour l'étude biblique à 19h, que ce soit en présentiel à l'église ou sur les plateformes Internet habituelles. Puis on se retrouve demain matin pour notre temps d'enseignement et de bénédiction matinale, toujours sur ce passage de Jean au chapitre 11. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, et rappelez-vous, Jésus, il est vraiment, vraiment, vraiment à vos côtés. Bonne journée, au revoir tout le monde.